La violence de l'étonnement peut révolutionner notre vision du monde et de nous-mêmes en remettant tout en question.
Parce que le véritable problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, notre rapport au monde, notre être à l'espace, fait de l'éradication systématique du vivant une finalité.
La vraie vie, elle est ailleurs. La vraie vie, elle n'est pas dans le faire beaucoup de choses, s'agiter, avoir sa Rolex à 40 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? La vie, elle n'est pas là. C'est ce que nous disent les poètes depuis toujours.
On oublie qu'émerveillement ne signifie pas naïveté.
L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes.
Nous sommes Pierre-Hugo Laplace et nous souhaitons la bienvenue sur notre podcast autoproduit pour Tract et Since Nothing. Au fil des épisodes, nous allons à la rencontre d'artistes, scientifiques, philosophes ou citoyens qui, par leurs travaux ou leurs réflexions, développent des discours alternatifs ou subversifs, c'est-à-dire en rupture avec nos imaginaires sociétaux actuels. Ensemble, nous déconstruisons les évidences qui nous empêchent trop souvent de percevoir l'étrangeté de notre quotidien. Quand bien même qu'il soit joyeux, dangereux, mélancolique ou amoureux, l'émerveillement a mille facettes qui n'attendent qu'à être embrassé. Nous tenons à préciser que nous basons au maximum nos entretiens sur la base de discours validés scientifiquement, rationnels ou basés sur un argumentaire solide au plus proche du réel et des faits, au-delà de nos simples interprétations, afin de valider ou non certaines hypothèses et ainsi nous doter d'une nouvelle grille de lecture fiable de notre environnement. Comment peut-on, à travers l'art ou la photographie, parler de sujets tels que l'immigration, de perception, de quotidien ou de routine, ou encore de lieux plus ou moins communs ? Pour répondre à tout cela, nous sommes intéressés, le temps de ce nouveau podcast, au parcours de notre invité du jour, Thomas Bouquin. Photographe freelance, chargé de cours à l'Université du Québec, chercheur en photographie, cofondateur du Club de livres photo de Montréal et gérant de librairie au Centre Clark, Thomas Bouquin s'interroge et explore à travers la photographie certaines réalités qui entourent sa vie. Sa série photographique, Le Roc Versé, est pour lui l'occasion d'évoquer son propre parcours migratoire, ainsi que celui de son arrière-arrière-grand-mère qui a émigré à New York à la fin du 19e siècle. Ce podcast est également l'occasion de revenir sur ses séries photographiques Spirit in the Night et Lumistro, où il explore respectivement son rapport à son quotidien et à la routine qui s'est émissée dans sa vie montréalaise et à la perception nouvelle des lieux qui lui sont personnels dans le sud de la France en tant qu'immigrant français au Canada. Bref, vous l'avez compris, pour Thomas, l'art et la photographie est plus que jamais un moyen d'expression qui lui sert à appréhender et transformer ses propres questionnements et son quotidien.
Salut Thomas.
Salut.
Salut. Bah, bienvenue dans notre podcast et merci à toi d'avoir accepté notre invitation.
Bah, merci à vous pour l'invitation, ça fait plaisir d'être là avec vous.
Pour commencer un petit peu, un peu doucement tout ça, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours ? Parce que tu es notamment photographe, tu es né en France et tu vis depuis plusieurs années à Montréal.
Oui, exact. Je suis né à Lyon en fait, en France, il y a une quarantaine d'années. Mon parcours, oui, comme photographe, la photo a toujours fait partie un peu de ma vie. Mon père avait un appareil photo, donc assez jeune, j'ai vu c'était quoi un appareil photo. Puis quand j'étais ado, il me l'a prêté une fois à la montagne, en vacances. Puis je me suis mis à faire plein de photos, donc ça a toujours été là. J'en faisais pour le plaisir, pas tant sérieusement. Puis Montréal, en fait, j'étais arrivé en 2008, donc ça fait 17 ans. Je travaillais avant à Paris comme graphiste, puis j'avais juste envie de changer de... J'avais envie de voir autre chose, découvrir autre chose. Je pense un peu, comme pas mal de Français, une espèce de rêve américain, peut-être, avec lequel j'ai grandi, à travers la culture américaine. Puis j'étais arrivé ici, je travaillais comme graphiste, d'abord, puis après... Je m'ennuyais un peu, puis je me suis remis à la photo assez sérieusement. Et puis j'ai décidé de m'inscrire à l'université dans un programme en art, en photo à l'université Concordia. Et puis après, j'ai continué à fond dans cette voie-là. Et puis là, je viens de terminer une maîtrise. Une maîtrise, c'est comme un master en art visuel.
Ouais.
Donc je viens de terminer cet été. Donc voilà, c'est pas mal ça mon parcours. pour ça, pour résumer.
Puis, du coup, on va y revenir, mais notamment à travers la photo, tu as travaillé sur différents sujets, puis notamment il y en a un sur l'immigration, où justement bah, tu es aussi concerné, puisque tu es passé de la France au Canada. Et notamment, tu interroges ce rapport à l'immigration, notamment avec le projet Le Rock d'RC, avec lequel on apprend que tu as un rapport très personnel sur ce sujet, puisque ton arrière-arrière-grand-mère a immigré un temps à New York, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu as pu, alors même si c'est un peu éloigné, mais est-ce que tu as pu connaître un petit peu son rapport avec tout ça, de passer d'RC à New York et puis de revenir après par la suite à RC ?
Ce que je sais, en fait, j'ai appris quand je faisais la recherche pour ce projet, et d'après mes recherches, elle est allée à New York à peu près en 1895 pendant 4-5 ans, travailler dans les hôtels ou restaurants. Après, je sais pas exactement qu'est-ce qu'elle faisait, mais à cette époque-là, il y avait beaucoup de Français qui allaient travailler dans l'hôtellerie à New York. Et en fait, RC, c'est un village dans les Pyrénées ariégeoises où ce qui est particulier, c'est quasiment... c'était très agricole, puis très rude parce que c'est dans les montagnes et il y avait très peu de travail pour tout le monde. Et beaucoup, en fait, ont immigré à New York. En fait, dans quasiment chaque famille, il y avait quelqu'un qui allait à New York. Mais après, elle, en fait, elle est revenue donc après 5 ans. Et en fait, j'ai su par ma famille là-bas qu'elle est partie pour en fait, faire de l'argent et pouvoir rembourser la ferme que la famille avait achetée. Donc... je sais que ma mère me racontait toujours, elle se demandait toujours comment elle a fait pour partir, puis laisser ses enfants, tu sais, pendant quelques années. Donc, je pense que c'était vraiment, vraiment un rapport travail pour aller faire de l'argent, puis revenir et payer des dettes, quoi. J'ai vraiment l'impression, en tout cas, de ce que je sais, c'est ça. Après, pardon.
Non, mais c'est intéressant, parce que toi, du coup, quand tu nous expliquais un petit peu au début... t'étais passé de la France à Montréal, parce qu'il y avait aussi un peu cet imaginaire avec de vivre un petit peu le côté américain, etc. Là, on voit qu'à cette époque-là, c'était peut-être pas forcément ça, c'était plus, effectivement, pour des raisons plus, on va dire, monétaires ou matérielles, pour pouvoir aider, en fait, directement sa famille en France, quoi.
Ouais, exactement, oui, c'est vraiment plus une immigration économique. Après... je pense aussi que ça dépend des gens. Moi, j'ai toujours eu, en tout cas, quand je faisais ce projet, je me suis toujours dit, puis je parle aussi personnellement à mon expérience, mettons, je voyais mon grand-père, lui, il aimait regarder les montagnes depuis chez lui, tu sais, les montagnes autour de... parce qu'il est né dans cette ferme-là, les montagnes autour. Mais je pense aussi qu'il y a des gens, d'autres personnes dans leur personnalité ou leur désir, ils avaient envie de voir qu'est-ce qu'il y avait derrière les montagnes et au-delà des montagnes. En tout cas, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Et moi, je fais partie de ceux qui avaient envie d'aller voir plus loin, alors que, des fois, dans la même famille, il y a un peu le même vécu ou la même histoire. Il y en a d'autres qui n'ont pas cette envie-là. Donc, en tout cas, je trouve intéressant. Puis les gens que j'ai rencontrés à New York, qui avaient ouvert des restaurants dans les années 50-60, je sentais aussi ce désir. Même s'ils avaient la nostalgie... des montagnes en France, puis de revenir chaque année en vacances en été, on voyait que, mettons, à New York, ils étaient dans leur élément, il y avait quelque chose de... un dynamisme, une énergie qui leur correspondait, puis que ça les attirait aussi. Donc, je pense qu'il y a comme une tension, une contradiction, quelque chose comme ça, qui est intéressante.
Hop hop hop, avant de continuer, sachez que chez Tract, nous ne faisons pas que des podcasts ou des vidéos. Notre souhait est de déconstruire et d'analyser les effets néfastes de notre société actuelle, comme les discriminations, les pressions sociales ou encore la crise environnementale, de déconstruire les évidences qui nous font penser que trop souvent la vie est ainsi faite, tout en réfléchissant et en promouvant de nouvelles façons de concevoir cette dernière à travers un prisme poétique. Pour soutenir notre travail, vous pouvez vous rendre sur move.tract.fr, le lien est en description de cet épisode, afin de découvrir l'ensemble de nos champs d'action entre production médiatique et artistique ou encore organisation de débats et pourquoi pas adhérer à notre association si vous souhaitez rejoindre notre collectif et nous aider à développer nos contenus et nos actions. Merci et bon podcast.
Ouais, et peut-être qu'à l'époque, quand on immigrait comme ça, c'était peut-être plus facile de, on va dire, de construire son propre truc sur place, quoi, afin de... on va dire presque de repartir de zéro et de faire en fait sa propre place dans ce nouveau lieu, quoi.
Oui, exactement. Parce que, en plus, à l'époque, New York était aussi en plein développement, quoi, avec l'immigration qui arrivait de partout. Donc, c'est sûr, c'était comme comment dire ça, une ville à construire. Les gens pouvaient. Oui, puis en fait, certains, j'ai aussi appris que certains avaient. Alors après, ça c'est plus au début du XXe siècle, mais aussi il y avait les raisons économiques. Il y a aussi ceux qui voulaient pas être conscrits pour la Première Guerre mondiale, donc il y a toutes sortes de raisons qui fait que les gens partaient. Et des fois c'était oui pour se faire une nouvelle vie, alors avec le rêve de réussir ou pas, mais des fois c'était purement pour s'enfuir aussi peut-être de situations en France qui étaient compliquées. Puis c'est sûr qu'à New York, vu que la ville se développait, bah il y avait du travail, il y avait ces possibilités-là, il y avait. Après, les gens aussi, pour réussir, pour s'intégrer, c'était vraiment à travers le travail. Donc, ils ont travaillé comme des fous toute leur vie pour pouvoir s'intégrer dans cette économie-là. Mais ça faisait partie de la réalité que ceux qui sont restés ont choisi puis accepté.
Et une fois que ton arrière-grand-mère est revenue à RC, est-ce qu'elle est jamais retournée à New York ou fallait toujours rester après RC ou elle est repartie ailleurs ou...
Non, à ma connaissance, elle est restée à RC après.
D'accord.
Mais en fait, je suis que mon grand. Après, c'est plus. Je sais que ma mère avait un oncle ou un grand-oncle qui vivait à New York. J'ai essayé de retrouver sa trace, mais je n'ai pas réussi. En tout cas, ou des lieux où il aurait pu être. Donc, il y a d'autres personnes. Après, il y a plusieurs vagues d'immigration. Ma grand-mère, c'était vraiment à début 20e siècle. Après, les restaurateurs que j'ai rencontrés, c'était plus dans les années 50. Il y en a eu aussi entre ces deux périodes, donc au niveau de la Première Guerre mondiale. Mais dans ma famille, il y a eu d'autres personnes. Mais moi, dans ma famille proche, non, après, il n'y a personne qui est retourné aux États-Unis. Mais je sais qu'il y avait toujours. J'entendais, mon grand-père avait un cousin, mettons, qui était à Chicago. Ou, tu sais, quand, mettons, il y avait des événements familiaux, il y avait une ou deux personnes des États-Unis qui revenaient. Donc, ça fait toujours partie de l'histoire qu'il y avait quelqu'un, un cousin à Chicago, un cousin ou quelqu'un qui avait été aux États-Unis. Donc, comment dire ça, le lien avec les États-Unis, New York en particulier, était toujours présent et connu de un peu tout le monde.
Est-ce que ça a pu participer pour toi en fait un peu alors je sais pas si tu as grandi avec toutes ces histoires-là, mais qu'on pu te donner aussi l'envie bah, toi de partir après. Est-ce que t'expliques d'ailleurs dans ton projet que justement ton projet photo rapproche des époques et des lieux éloignés pour souligner comment la mémoire de l'un demeure dans l'imaginaire de l'autre. Est-ce qu'il y a un peu cette mécanique qui s'est mise en place aussi avec toutes ces histoires dans ta famille et puis du coup ta volonté aussi après pour toi d'immigrer au Canada, en Amérique du Nord?
Bah oui, en fait, carrément, j'ai grandi avec le rêve d'aller à New York, en fait. Puis, pour la petite histoire, pardon, je pense j'en parlais tellement, puis assez jeune, qu'une fois, ma grand-mère, mais du côté de mon père, qui était veuve et qui voyageait, en fait, chaque année faisait un grand voyage, elle m'a dit, je pense, j'ai genre 14 ans, elle m'a dit, si t'as ton bac, du premier coup, je t'emmène à New York. Donc, ça m'a motivé à avoir mon bac. Et première chose que j'ai faite quand j'ai su que j'avais mon bac, c'était appeler ma grand-mère pour lui dire qu'elle pouvait réserver les billets, qu'on allait à New York. Donc, ouais, ça m'a toujours. Puis, tu sais, j'étais fan assez jeune basket américain. Après, j'ai joué au basket, j'ai fait pendant longtemps du skate. Puis, toute cette culture-là, la musique, je connaissais mieux la culture américaine que la culture française ou européenne. Donc, c'est clair que c'était comme ça a toujours été dans un coin de mon esprit. Et puis les études que j'ai fait au début en France, c'était plutôt des études courtes. Il n'y avait pas de possibilité de faire d'échanges ou des échanges avec, mettons, le Canada ou les États-Unis. Donc quand j'ai découvert le visa qui était le programme vacances-travail pour aller au Canada, l'année où je travaillais à Paris en 2006-7, ben, tout de suite, je savais que je voulais y aller et puis aller passer quelques mois au Canada. Donc, oui, ça a toujours été là dans un coin de mon esprit d'un jour d'aller faire, ne serait-ce qu'aller passer 3 mois ou faire un échange ou d'y aller d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est ça qui est arrivé en fait.
Puis on voit que ton projet photo, il me semble qu'il est entièrement en noir et blanc. Je pense que c'était aussi pour se donner un peu cette idée du pont entre les générations et puis un peu un côté peut-être intemporel.
Oui, exactement. J'avais fait des tests. Puis ce que je trouve intéressant avec le noir et blanc, c'est que ça mettait au même niveau, mais en tout cas, ça rendait les choses plus complexes et plus flou entre des fois savoir l'image, est-ce qu'elle a été faite en France, à RC, ou est-ce qu'elle a été faite à Central Park, à New York. Puis ça mettait, oui, un peu un côté intemporel et un côté... c'était aussi pour créer comme un ensemble cohérent qui comme mélange des époques différentes et des lieux différents. Donc le noir et blanc permettait d'avoir une certaine homogénéité, en fait, pour soutenir le propos. Puis aussi, je suis allé à des saisons différentes et la lumière aurait été très différente en couleur et la température de lumière. Donc, en noir et blanc, ça permettait d'avoir comme ça, de mieux contrôler un peu tout le projet. Donc,
c'est intéressant ce que tu as dit sur, notamment le fait, au premier coup d'œil, de ne pas forcément voir si la photo vient de Central Park ou de France. C'est que c'est intéressant parce que ça permet aussi de... te rendre compte que même sur place où on habite chez nous, on peut quand même, avec un certain point de vue, en fait, s'imaginer ailleurs. Et je trouve que c'est intéressant de développer ce côté-là aussi. Quoi.
Oui, tout à fait. Bah, en fait, ça, c'était aussi une idée au cœur de mon projet. Par exemple, je me suis intéressé et puis questionné et j'ai posé des questions aux gens que j'ai rencontrés à New York. Pourquoi ils ont choisi un rocher dans Central Park? En fait, c'est parce que les immigrants d'RC se retrouvaient tous les dimanches à ce rocher-là, d'où le nom du projet, le Roc d'Hercé, et il l'appelait le Roc d'Hercé. Et en fait, une personne m'a dit, c'est parce que c'est central, donc en fait, les gens pouvaient se retrouver. Mais moi, je pense qu'ils s'en rendaient même pas compte, mais en tout cas, moi, mon point de vue, c'est que c'est un lieu qui peut faire penser, en tout cas, qui rapproche un peu de l'expérience du passé, justement à la montagne, dans les Pyrénées, dans un parc comme ça, entouré d'arbres, des roches où si on avait été en France en randonnée ou quoi, on serait probablement arrêté assis sur une roche pour pique-niquer ou quoi, ou comme un point de repère aussi. Hey, on se retrouve au Grand Chêne ou on se retrouve au rocher dans le champ là-bas. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'évocateur en fait dans ce lieu qui a servi de lieu de rencontre et qui fait le lien en fait entre le nouveau territoire, mais en même temps la mémoire du lieu d'où ces personnes étaient originaires. Donc ça, j'essaie de le retranscrire en image un peu. Donc c'est ça que le noir et blanc a aidé à un peu mélanger les univers. Donc mettons, on peut avoir une image avec le Roc d'Hercé dans ce champ ce parc très grand, Central Park, mais avec en arrière les gratte-ciels qui peuvent un peu jouer comme si c'était un paysage avec des montagnes. En tout cas, j'avais tendance à un peu m'imaginer que faire un parallèle entre les gratte-ciels ou les montagnes, l'espèce de sentiment de grandiose qu'on peut avoir dans les deux cas. Donc, je trouvais intéressant au niveau symbolique aussi.
Pour enchaîner, tu as aussi fait un autre travail, une autre série qui s'appelle Spirit in the Night, qui est aussi très intéressante parce que tu as une approche qui nous parle beaucoup sur notamment la c'est un peu ce qu'on vient de dire aussi, mais sur la perception du quotidien, d'une routine qui s'installe. Est-ce que tu as été surpris que cette routine s'installe même loin de ta ville natale?
J'étais surpris, oui et non, dans le sens, je pense que quelque part, je m'en doutais que ça arriverait à un moment donné, mais j'étais peut-être surpris de devoir quand même l'affronter, entre guillemets, tu sais, de devoir le vivre, en fait, quand même. Parce que des fois, t'as beau savoir que ça s'en vient, mais l'expérience, quand t'es dedans, c'est différent. Et comment dealer avec ça, comment gérer ce sentiment. C'est comme ça que, oui, a commencé le projet, en fait. C'est que, après 2-3 ans où j'étais à Montréal, c'est sûr que tu travailles, mais toi, je travaillais, puis il y a une routine qui s'installe dans le quotidien, puis c'est quelque chose, le quotidien, j'ai toujours eu un peu de difficulté quand les choses se répètent comme ça sur une longue durée, de perdre un peu la motivation ou en tout cas le sentiment de découverte, bah, il s'estompe parce que ça devient ta réalité quotidienne. Puis en fait, j'avais des cours à l'université de soir et en fait, en rentrant le soir, je m'apercevais que des lieux que j'avais vus le matin, tout gris, tout moche, bah, suivant comment ils étaient éclairés, ça devenait vraiment intéressant. Puis j'ai toujours aimé la photo de nuit, il y a comme un caractère un peu cinématographique, un peu... en tout cas, quelque chose qui m'attire et qui me plaît, puis une ambiance la nuit, un genre de... qui, en fait, faisait référence à des souvenirs d'enfance où j'en parle dans mon projet, où quand j'étais jeune, j'adorais les moments où, en famille, on rentrait de nuit en ville, puis voir toutes ces lumières, la ville, ça m'impressionnait, puis je trouvais que c'était calme, puis je me sentais bien dans ces moments-là. Donc, je pense qu'il y avait une façon de retrouver ce sentiment pour un peu combattre la routine. Donc, c'est comme ça qu'est né ce projet. Après, c'était revisiter des lieux la nuit avec ma caméra, puis trouver des choses intéressantes comme ça, redécouvrir la ville, en fait. Puis ça m'a permis de un peu prendre le dessus sur ce sentiment déprimant de la routine.
Ouais, du coup, enfin, je sais pas si t'en avais un peu peur, mais ouais, tu l'appréhendais, du coup, de... Enfin, ouais, en fait, c'est ce que tu dis, c'est que tu savais que ça allait arriver, mais... Ouais, tu savais pas trop à quel moment et puis comment du coup au début comment l'appréhender du coup.
Oui, exact. Ben en fait, je l'ai senti sans m'en rendre compte quand j'ai voulu aller étudier en photo. Je pense que je voyais ça plus comme l'attrait de la photo puis l'envie vraiment de pousser et d'apprendre en fait comme une je sentais comme un désir très fort d'étudier en photo, de tout apprendre, de pratiquer. Mais je pense qu'il y avait déjà un ennui, une routine dans mon emploi précédent de graphiste, en fait, où, ben, c'est ça, c'est quand même assez... C'était pas tant créatif, c'était plus vraiment répétitif. Donc, il y a un mélange comme ça de répétition, de routine qui s'installe, puis de désir de faire autre chose, de créer, de faire des photos, tout ça. Puis aussi, bon, ben, j'ai une tendance à... Comment dire ça? Un peu à la déprime assez rapide... comme un épisode plus jeune où je c'est pas été diagnostiqué mais je fais comme une genre de dépression donc je sais qu'il y a des signes comme ça que ben la création m'aide à pas retomber là-dedans quoi donc comment dire ça j'étais pas tant surpris il fallait que je trouve une manière en fait d'utiliser tout ça pour passer à travers puis je pense que la création et ce projet photo m'a vraiment aidé à sublimer un peu ces moments gris, puis surtout en plus à l'hiver. L'hiver ici au Québec est très long et peut, ben, en fait, joue sur le moral, puis sur le quotidien. Il y a des gens qui détestent l'hiver, même en étant nés ici, et ils sortent pas de chez eux. Donc, moi, c'était une façon de prendre le dessus de tout ça, puis de créer quelque chose.
On se rend compte aussi avec ton travail, enfin, ce que tu viens de dire là, que finalement, ça me fait aussi un peu penser à ça, que quand on visite des lieux qui ne font pas partie de notre quotidien, donc qu'on va trouver extraordinaire dans le sens où il est hors de notre quotidien, hors de notre ordinaire, en fait, on se rend compte que ce qui est extraordinaire pour nous est l'ordinaire de quelqu'un d'autre. Et finalement, on peut aussi poser peut-être un regard peut-être extraordinaire sur notre propre quotidien, peut-être en essayant de s'émerveiller justement des choses qu'on connaît déjà, justement comme toi tu l'as fait, en regardant peut-être des choses sous une autre, dans une autre période de l'année, sous une autre lumière, à différentes périodes de la journée, quoi.
Oui, complètement, je suis tout à fait d'accord avec ça. D'ailleurs, même... j'essaye de cultiver ça, en fait, c'est comme une espèce de... c'est pas moi qui l'invente, là, mais de genre poésie du quotidien, là, c'est un terme qu'on peut retrouver ailleurs, mais... Oui, dans des petits détails, des petites choses, des petits moments de beauté, comme ça, de la vie, en développant sa sensibilité, son attention, exactement, oui, il y a des choses qui... En fait, ben... La photo, en fait, moi, mon rapport à la photo, c'est beaucoup ça, en fait. C'est relever des choses qui m'attirent et puis qui, après, m'obsèdent et puis que j'ai envie d'y retourner. Ça crée comme ça une énergie créatrice qui fait que, ben, au lieu d'être pris par le quotidien et un peu je vais utiliser un mot fort, mais le désespoir, mettons, c'est de créer un espoir, quelque chose un peu poétique, de transformer quelque chose du quotidien en quelque, de le sublimer pour en faire quelque chose d'intéressant et puis le montrer sous un autre jour, quoi. Je trouve qu'il y a quelque chose de... En tout cas, l'art permet ça de...
Ouais, c'est ce que disait un peu Michael Edward. Il avait donné une interview sur, je sais plus quoi, sur que c'était France Info. Et il parlait justement, lui, de cette notion un peu d'émerveillement du quotidien. Et lui, il disait ça dans le sens où c'était savoir, en gros, sonder ou s'émouvoir de l'étrangeté, en fait, du quotidien, quoi. Donc, c'était trouver les petits points, les petites interstices d'étrangeté que dans les choses qu'on croit connaître, quoi.
Ah ouais, bah, je suis assez d'accord avec ça. Oui, puis, bah, je pense que les... En fait, quand on regarde bien le quotidien, c'est... Comment dire ça? C'est imposé par la société dans laquelle on vit, qui est très encadrée, avec le travail et tout, puis... La vie, elle, justement, elle glisse dans plein d'interstices et il faut apprendre à les relever, à l'observer, en fait. C'est parce qu'on a aussi un rythme qui est fou. On va plus vite que, on essaie d'aller plus vite que le temps, puis on oublie de regarder, on oublie de s'étonner des choses qui, même si elles se répètent, non pas dans un quotidien, mais dans une... comme là, on vient de passer à l'automne, puis tu sais, juste ce matin, je regardais, j'ai un arbre à ma fenêtre, puis bah, l'érable, les feuilles, elles commencent à changer de couleur. Bah, juste ça, c'est chouette à regarder, à observer. Donc, pourtant, c'est le même arbre que je vois tous les jours, mais là, il change de couleur, donc c'est chouette. Donc, c'est cette sensibilité-là, je pense qu'après, bah, en tant qu'artiste, photographe, qu'on cultive aussi, puis qui nous permet de créer des choses.
Parce que du coup, ce projet-là, c'est ça, le Spirit in the Night, tu l'as fait à peu près 3 ans après que t'es arrivé à Montréal, c'est ça? Et là, tu disais que ça fait 17 ans maintenant que tu y es. Du coup, ouais, t'arrives encore à trouver ces petites sources d'émerveillement après 17 ans dans la même ville?
Oui, j'essaye, c'est pas toujours facile, mais par exemple, hier soir, je travaillais le soir, puis je rentrais en vélo, j'ai vu un endroit qui était éclairé différemment, puis là, je me suis dit, je pourrais aller faire une photo pour retourner à un moment donné faire une photo la nuit, donc ça demande plus d'efforts peut-être, mais ça arrive encore. J'arrive encore des fois à m'émerveiller, à dire, hey, j'étais à Montréal quand même, c'est cool. Alors que, tu sais, des fois, ça. Bah, c'est pris dans la routine, la vie, tout ça. Bah, des fois, on oublie pourquoi on est là, pourquoi. Tout ça. Puis c'est correct aussi si à un moment donné, on peut avoir envie de passer à autre chose ou changer, c'est pas ça. Mais c'est juste que c'est chouette quand ces moments reviennent où. On redécouvre quelque chose. En fait, parce que je pense que ça change tout le temps, c'est juste que des fois, on le remarque pas aussi.
Et est-ce que, justement, peut-être aussi chercher, parce que c'est peut-être pas toujours évident, en effet, comme tu viens de le dire, on dit depuis tout à l'heure le terme s'émerveiller, mais déjà, observer son quotidien, ça permet pas aussi peut-être de... C'est du coup s'émerveiller de choses du coup peut-être plus subtiles que des choses qu'on ne connaît pas, parce que forcément quand on les connaît pas on découvre, et là il y a un sentiment qui vient direct, on va dire, un peu d'émerveillement. Quand on essaie de s'émerveiller des choses qu'on connaît, est-ce que ça permet pas aussi d'aller peut-être découvrir peut-être plus en profondeur les lieux qu'on habite, quoi, de notre quotidien, quoi. Et justement, c'est faire cet effort-là, peut-être aussi, ouais, d'aller chercher peut-être plus en profondeur des petites choses dans son quotidien.
Ouais, je suis d'accord. En fait, c'est pour ça que je pense que ça... C'est un état d'éveil, entre guillemets, qu'il faut cultiver, en fait. Puis, en fait, j'essaye même de le cultiver comme... des fois, je me force... je me force. Sciemment, je sors pas mon téléphone cellulaire, là, mettons, je prends le métro ou je suis dans des moments où il y a rien à faire, mais je fais l'effort, je regarde, c'est parce que j'aime ça, premièrement, mais c'est aussi parce que je me refuse et j'essaye de limiter mon temps d'écran et je me refuse à sortir mon téléphone, et juste ça aide à, évidemment, à observer, et puis des fois, ça permet d'observer, puis j'ai envie de faire des photos, mettons, dans le métro, une situation ou une scène, mon téléphone, je ne veux pas regarder du contenu, mais je vais le servir pour faire une photo avec. Puis juste ça, ça fait partie de ma pratique aussi, un peu tout le temps. Donc je pense aussi, quand je fais mes projets photos, souvent, il y en a beaucoup aussi, c'est... En fait, je marche en ville, donc c'est par la marche que ça arrive. Et puis j'ai toujours eu ce sentiment que ça prend un moment, mettons, je l'estimais à comme 30 minutes où je marche, puis je suis comme dans un rythme. Un peu comme quand on fait du sport, on devient dans un rythme, un espèce d'état d'attention, en fait, qui... Et puis à ce moment-là, je vois un peu les choses, pas différemment, mais je me mets dans un état où je fais des photos et je marche, puis un rythme s'installe, une attention s'installe, et à ce moment-là, mon attention, on dirait que grandit, en fait. Mais ça prend du temps, ça prend un moment, ça prend... Voilà, comme un exercice un peu, une pratique au fond, et qui permet ça, donc il faut l'entretenir, il faut la cultiver, je dirais.
Ouais, c'est clair. Pour poursuivre un petit peu, ce qui est intéressant c'est que tu as aussi du coup fait le projet Lumistro, où là je trouve qu'à l'inverse, du coup, tu interroges un petit peu la perception nouvelle des lieux qui te sont personnels, alors là notamment dans le sud de la France. Est-ce que du coup ta perception de ces lieux a beaucoup évolué?
En fait, elle avait évolué quand, après plus à l'inverse de Spirit in the Night, quand après plusieurs années à Montréal, je me rendais compte que je retournais en France, puis je me sentais un peu pas perdu, parce que justement c'est des lieux que je connais pour la plupart. Après, j'en ai évidemment découvert d'autres parce que ma famille a déménagé ou j'ai allé dans d'autres endroits. Mais il y avait vraiment un sentiment, surtout en fait, mais ce projet aussi a commencé en 2012, à peu près, en fait, finalement, quelques mois après que je faisais Spirit in the Night, donc j'étais vraiment dans un état d'esprit particulier. Puis c'est aussi mon frère venait d'avoir sa femme, leur premier enfant, donc mon neveu Noah. Et en fait, j'allais pour le rencontrer, donc j'arrivais là-bas, c'était la première fois, moi j'étais genre un oncle, mon frère avait un enfant. Et ce sentiment, dès que je suis arrivé à l'aéroport, parce que mon frère habite vers Toulon, à Marseille, j'étais vraiment submergé par ce sentiment un peu de reconnaître les lieux, mais me sentir dans un état comme ça, distant des choses, comme si j'arrivais pas à les saisir. Donc je trouvais intéressant tout de suite, en fait, je me suis mis à faire des photos, puis c'était ma façon, un peu à l'image de Spirit in the Night, de m'approprier les lieux. C'est une façon d'essayer de peut-être traduire ces émotions, ces sentiments que j'avais en faisant des images, en fait. Puis c'est un peu comme si les paysages américains, maintenant, qui étaient mon quotidien, puis un peu une histoire de la photo américaine se superposait avec les paysages que je revisitais du sud de la France. Donc j'avais comme une... C'est comme si je voyais les choses un peu avec des lunettes, avec comme un genre de filtre. Et en fait, j'essaie, je pense, visuellement, de créer une intersection entre ces paysages revisités et puis les paysages qui étaient américains, qui devenaient mon quotidien. Donc, c'est pour ça qu'il y a des images, en fait, qui sont en France, mais qui ont une esthétique qui peut évoquer certains photographes américains que j'étudiais à ce moment-là.
Parce que est-ce que tu arrives, du coup, quand maintenant... Enfin, alors, je sais pas à quelle fréquence tu retournes en France et dans ces lieux-là, mais... Est-ce que tu arrives du coup à quand même refaire pleinement partie de ces lieux quand tu es sur place, ou est-ce que maintenant ils te paraissent quand même maintenant un peu trop éloignés de toi?
Bonne question. Je pense que oui, maintenant je me sens moins en décalage depuis quelques années. En fait, peut-être depuis que moi aussi j'ai eu un enfant au Québec, puis mon fils Sacha. Puis en fait, je pense que dès qu'on... On est allé en France avec lui les premières fois. On dirait que ça bouclait la boucle un peu, si on peut dire. Et ça a changé un peu ma perception des lieux. Je me sentais moins en décalage, mais je me sentais plus peut-être parce que le faire visiter des choses, être plus peut-être connecté avec la famille, me sentir moins éloigné. Puis aussi, la réalité de vivre au Québec après toutes ces années fait que je me sens moins dans un entre-deux. Peut-être les choses sont plus établies. Je retourne à peu près en France une fois par an. Donc, il y a quand même un rythme qui s'installe, je pense, aussi, maintenant. Et je sais que d'avoir un enfant ici, je suis moins dans les questionnements. Est-ce que je vais retourner? Est-ce que je reste ici? Tu sais, maintenant, j'ai mon fils, donc je me vois pas partir. Donc, les choses sont peut-être plus claires aussi à ce niveau-là, d'être moins dans un questionnement comme ça existentiel un peu. Ouais, puis bah, je pense qu'aussi mon projet est terminé, Lumistro, parce qu'il a commencé quand j'étais allé visiter aller voir mon neveu pour la première fois, puis c'est un peu terminé quand je suis retourné avec mon fils. Donc c'est pour ça que je dis que ça a bouclé la boucle. Donc je pense que maintenant, j'ai moins ce regard que j'avais à ce moment-là sur les lieux. Voilà, on dirait que je suis passé à autre chose, à un autre moment, une autre étape. Donc peut-être un autre projet à un moment donné viendra dans le sud de la France, parce qu'il y a des choses qui m'intéressent, mais pour l'instant, non. Pour l'instant, je profite de mes vacances.
Justement, ça fait un peu le pont avec la prochaine question, parce que quand on va sur ton site, et notamment dans tes biographies, on peut dire que tu es du coup à la fois photographe freelance, tu travailles aussi à l'Université du Québec à Montréal, c'est ça ? T'es chercheur en photographie, t'es cofondateur du club de l'IFOTO de Montréal et gérant de la librairie au centre Clark. Donc t'as quand même pas mal d'activités, on va dire, à Montréal. Et justement, ça faisait un peu lien avec la question, ce que tu viens de dire, parce que moi je m'étais questionné sur notamment avec ton projet Lumistro, où tu décris la capacité de participer aussi pleinement aux activités qui se déroulent sous tes yeux. Du coup, on se demandait ce que ça pouvait être un ressenti compliqué, du coup, de plus pouvoir te sentir impliqué dans des lieux qui étaient liés à ton enfance par rapport à où tu vis maintenant. Mais a priori, c'est ce que tu nous dis, c'est que maintenant, c'est un peu plus établi, quoi.
Oui, exactement, oui. Je pense que ça l'était plus il y a quelques années, quand je faisais encore mon projet. Puis ces dernières années, on dirait que... Ouais, c'est ça, c'est plus établi, c'est plus... comment dire ça ? C'est plus clair, peut-être, dans mon esprit. Les choses sont plus... c'est pas à leur place ou cadrées, mais... Je sais pas, je vis mieux avec cette réalité de vivre à l'étranger. Ben, en fait, maintenant aussi, j'ai la citoyenneté canadienne aussi depuis un an ou deux ans, je pense. Donc, le rapport aux choses, au territoire change aussi. Mon histoire aussi, elle est plus simplement un Français immigré à Montréal. Il est aussi maintenant un enfant ici, citoyenneté, comme double nationalité. Donc, ça change mon rapport à ces deux pays, à ces territoires. Puis, de toute façon, c'est des questions après qui m'intéressent beaucoup. En tout cas, puis je trouve que c'est assez actuel avec tout ce qui se passe dans le monde, mais tu sais, comment dire ça? Je ne suis pas que français, je ne suis pas que immigrant. Tu sais, en tout cas, c'est ce mélange, en fait, qui moi, m'intéresse et me nourrit. Puis d'ailleurs, je pense qu'il y a un pont un peu avec ce que tu disais, avec les différentes activités que je fais. J'aime faire plusieurs choses. Alors après, ça, c'est difficulté aussi, des fois, de jongler avec différentes choses, mais j'ai besoin, je pense, de pourquoi je sais pas, mais je me sens mieux quand j'ai plusieurs projets, une variété de choses qui se passent, qu'avoir juste mettons un emploi temps plein, ou j'ai la difficulté à rentrer dans une boîte ou dans une seule étiquette. C'est même pas par choix intellectuel peut-être, mais c'est vraiment par je sais pas, c'est physique, là. En fait, sinon, la routine s'installe. Donc, j'ai besoin de faire plusieurs activités. Après, la difficulté, bah, c'est de trouver l'équilibre. Et voilà. Après, toutes les choses que tu as citées ne se passent pas en même temps, heureusement. Donc, mais moi, ça nourrit ma pratique, ça nourrit mon expérience. Puis, ouais, c'est ça, ça. Les activités différentes aussi se nourrissent entre elles, donc c'est le fun.
C'est intéressant ce que tout ce que tu expliques là, parce que si on fait un peu un parallèle avec ce qui se passe en France, notamment plutôt les discours de droite qui sont assez durs envers l'immigration et des personnes qui viennent en France, eux qui disent en fait que ces personnes-là veulent pas forcément s'intégrer à la société française. Mais on se rend compte aussi avec tout ce que tu dis, que finalement l'immigration, qu'elle soit voulue ou subie, Bah, en fait, dans tous les cas, c'est que ça peut prendre du temps, en fait, de se sentir pleinement intégré dans, on va dire, dans le nouveau pays. En fait, c'est normal, quoi. C'est qu'il faut prendre aussi ses marques. Toi, on comprend finalement que ça a quand même mis, au final, quand même quelques années avant que tu... Bah, avant que, voilà, que... Alors, sans oublier ton pays d'origine, mais voilà, que tu te sentes, en fait, que tu te sens vraiment pleinement bien dans, on va dire, dans ta nouvelle ville, quoi.
Oui, exactement. Ben, en fait, je m'y sentais très bien tout de suite, très rapidement. De façon, j'en étais surpris moi-même, là, à Montréal, parce que aussi dans l'excitation de la découverte, la nouveauté, puis l'énergie que ça peut donner. Et après, c'est sûr qu'il y a eu des périodes où plus de routine, mais en même temps où je me suis questionné, tu sais, mais en même temps, je me disais, si je vais en France, qu'est-ce que je ferais? Puis dans les domaines artistiques et culturels, tu sais, à part aller à... En tout cas, à l'époque, ça a peut-être changé un peu, mais à part aller à Paris, il n'y avait pas vraiment de perspective. Puis je venais d'un an à Paris où j'avais vraiment pas tant apprécié mon expérience. Je me voyais pas... C'est ça, bref, en tout cas, je... Oui, ça a pris du temps pour accepter, ça a pris... Ben pour se sentir... Bien dans cette comment dire ça? C'est pas une contradiction, mais dans cet écartèlement un peu entre pays d'origine et pays où on vit, en fait, il y a toujours. Puis je pense que ça, de ce que j'entends et ce que des discussions que j'ai eues avec des gens qui ont immigré, ça fait partie de la, comment dire ça, de la vie et des questionnements des gens qui vivent à l'étranger, en fait, de est-ce que je vais retourner? Quand? Je parlais encore récemment à quelqu'un. Ah, peut-être on regarde pour aller faire notre retraite en France ou en Europe, mais ils sont très bien installés à Montréal. Donc, c'est des questions, je pense, qui sont toujours là, toujours présentes. Puis après, bah, c'est comment on arrive à... Après, il faut faire des choix. Puis, dépendamment les opportunités ou pas, les circonstances familiales aussi, ben, les choses changent. Après, pour revenir sur l'immigration, oui, ça prend du temps. Puis je pense qu'il y a, comment dire ça? Malheureusement, les partis politiques se servent de l'immigration quand ils veulent un peu attirer la couverture médiatique sur eux. Quand ils n'ont pas d'arguments, c'est le premier qui sort. Donc malheureusement, ils se servent de ça un peu pour. Puis c'est un peu facile de tirer sur les immigrants parce que qu'ils l'aient voulu ou pas, souvent leur famille est loin, leur culture, on leur demande de s'adapter, d'adopter une nouvelle culture, ils n'ont pas le droit à l'erreur, ils sont tout de suite suspects de ne pas être à la hauteur de ce qu'on attend d'eux. Souvent, ils font des emplois payés au salaire minimum que personne veut faire. Donc, en tout cas, c'est un peu facile de tirer dessus. Puis on sait très bien qu'économiquement, l'immigration est inévitable, et en fait, même, moi, je dirais qu'elle est positive. Je veux dire, l'histoire est une histoire d'immigration, il n'y a pas... En tout cas, je pense que là, je m'éloigne du sujet, mais on pourrait en parler des heures, quoi, c'est...
Non, mais c'est que surtout en Amérique du Nord, donc c'est que
Ouais.
l'immigration est vraiment partie de cette culture-là, au final. Donc c'est ça, je sais pas si ça a pu peut-être t'aider, toi, quand t'arrives au Canada, au final. Parce que c'est que c'est quand même quelque chose qui est vachement présent, je pense, là-bas. C'est quand même une grosse culture européenne aussi, au final. Il y a beaucoup d'Européens qui étaient venus à l'époque. On a discuté au tout début, notamment sur le projet du Rock d'RC. Donc.
Oui, complètement. Bah, Montréal, je pense, c'est la... Bah, en fait, c'est aussi pour ça, quand j'étais venu en pr mon premier voyage avec ma grand-mère à New York, puis en fait, le voyage, c'était un voyage organisé, puis il commençait par le Québec et il finissait à New York. Puis finalement, moi qui ai toujours rêvé de New York, je me suis rendu compte que j'avais vraiment aimé le Québec. Et en fait, aussi le côté francophone, on va pas se mentir, quand je suis arrivé ici, mon anglais était assez pourri, donc... Ça a changé depuis, mais le fait d'avoir aussi des traits européens au Québec, d'avoir beaucoup de gens d'Européens et de Français, bah, ça a beaucoup aidé mon intégration. Puis cette espèce de culture qui est un peu, qui est hybride un peu entre, avec son histoire avec la France, puis la culture américaine qui est si proche, et en même temps, en troisième, la culture québécoise qui a sa propre culture au-delà de son lien avec la France puis l'Amérique du Nord. Mais la première année aussi où j'étais à Montréal, les amis avec qui on était une dizaine, dès le premier jour à l'auberge de jeunesse, je suis arrivé, je me suis fait des amis la plupart, c'était des Français, donc des Françaises. Donc, on était un groupe comme ça où on visitait, on se baladait, on faisait toutes les activités à faire, on les faisait ensemble. Après, les deux tiers du groupe sont retournés en France pour plein de raisons, et les quelques-uns qui sont restés, après, on s'est un peu perdu de vue. Puis après, bah, avec le travail, la vie, je me suis mis à avoir des amis québécois ou des amis, un très bon ami qui est d'origine américaine mais qui est à Montréal. Donc après, à Montréal, il y a, je pense, plus de 180 nationalités qui sont présentes. Donc c'est un genre de petit New York, il y a quasiment le monde entier là. Donc il y a une richesse comme ça qui est super intéressante, qui est un peu sans fin et qui est vraiment agréable et qu'on peut toujours découvrir, même des fois avec mon ami Chad, donc qui est américain. On va prendre un verre ou un café dans une autre partie de la ville, t'as l'impression dans Montréal de changer d'environnement, de changer de ville en fait en fonction des quartiers. Donc c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, qui par exemple quand j'étais à Paris avec l'uniformité architecturale, moi m'angoissait quasiment, même si je reconnais la beauté et puis la spécificité, mais personnellement j'aime mieux, je me sens mieux dans des environnements où, tu sais, une journée je peux être au centre-ville puis j'ai l'impression d'être à Manhattan, après je suis dans un au plateau Mont-Royal où t'as les terrasses, t'as l'impression d'être en Europe ou en France. Donc en tout cas, il y a comme une richesse comme ça qui me plaît bien.
Pour finir du coup cet épisode, on comprend à travers tout ce que t'as dit que l'art prend quand même une grande place dans ta vie, dans tes activités. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton rapport avec l'art ?
Mon rapport avec l'art, il se développe encore, comment dire ça ? Oui, c'est très important dans ma vie, mais je me rends compte que c'est important aussi juste dans mon quotidien, c'est-à-dire d'avoir une approche, de créer des choses. Tu sais, là, en ce moment, je m'achète des t-shirts en friperie, puis je prends des photos ou j'essaye de faire la sérigraphie. En tout cas, j'essaye de découvrir des choses puis d'en mettre dans mon quotidien et pas juste dans des projets artistiques. Mais c'est sûr que ça fait partie de... Ça me nourrit. Puis c'est aussi quelque chose qui est arrivé un peu plus tard dans ma vie. Moi, avant d'étudier en photo, j'avais jamais eu d'études artistiques. Je n'ai pas de ce milieu-là. Mais j'étais toujours sensible à des activités comme artistiques ou à des artistes, ne serait-ce à travers... la musique, ou quand je faisais du skate, y a plein de skateurs qui sont aussi des artistes, puis ça ouvre la porte à plein de... en cas de lien avec des mouvements artistiques. Donc oui, l'art est nécessaire à ma vie, ne serait-ce que pour en découvrir, puis en faire. Et après, bon, on peut discuter du... Le monde de l'art, c'est autre chose, mais l'art en tant que tel, comme pratique, comme... comment dire, pas une philosophie, mais il y a quelque chose, oui, qui est nécessaire, en fait, dans ma vie, puis qui est quand... Puis d'ailleurs, quand il y a des moments, comme tout à l'heure, je parlais de déprime ou dépression, quand il y a des moments plus difficiles, c'est ça, l'art aide à traverser tout ça, permet d'ouvrir des perspectives, de regarder les choses différemment, puis de voir les travaux d'autres artistes, un peu comme tu disais tantôt sur le... regarder le quotidien d'une nouvelle façon, de savoir l'apprécier, je trouve que l'art permet ça, en fait. L'art, c'est de transformer des choses pour les rendre intéressantes. En tout cas, je n'essaierai pas de définir c'est quoi l'art, c'est assez complexe, mais pour moi, c'est ça. Ça permet de redécouvrir des choses d'une façon où on n'aurait pas pensé, ou comme un émerveillement, ou même des fois dans des choses qu'on n'aime pas, mais il y a des choses intéressantes à découvrir, donc...
Eh ben, merci Thomas.
Merci à vous.
Et voilà, c'est tout pour cet épisode, en espérant qu'il vous a plu. Concernant les notes de ce podcast, rendez-vous sur notre site move.tract.fr, rubrique blog. Tu trouveras les liens dans la description de cet épisode afin de découvrir le travail de Thomas. Pour nous contacter afin de nous proposer comme invité ou de nous proposer un invité ou tout simplement nous faire un retour, vous avez la possibilité de réaliser tout cela via la page contact du site ou via l'adresse mail que tu trouveras dans les notes de l'épisode. Afin de suivre notre actualité quotidienne, c'est direction le compte Instagram de Tract ou celui de Since Nothing en tapant tract.move ou since.nothing dans la barre de recherche d'Instagram. Un grand merci d'avance et pour nous avoir écoutés. À bientôt.